que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Oh, c'est gentil, mais pourquoi tu chantes comme ça?
Enfin, Mimi, samedi soir, je te rappelle, on a soirée karaoké. Je répète.
Vous écoutez l'agité du local.
Il y a niché dans un coin de notre belle Mayenne un lieu qui respire la vie, mais aussi la résilience, la fragilité, la beauté, des secondes chances. Je vous en parle et vous y emmène depuis plusieurs jours. C'est le refuge de l'Arche. C'est notre dernière rencontre aujourd'hui avec un membre de l'équipe de ce refuge. On rencontre des gens qui travaillent et ce n'est pas seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains. Je vous parle bien sûr donc du refuge de l'Arche puisqu'on y croise des histoires singulières. Aujourd'hui, je tends mon micro à Véronique qui est salariée là-bas et qui fait partie du chantier d'insertion. On se plonge dans ses yeux aujourd'hui, elle nous raconte son expérience. Bienvenue amis auditeuristes, vous écoutez l'agité du local et ce n'est pas tout puisqu'aujourd'hui je vous parle aussi des 10 ans du festival des 37 à Renazé. Ce week-end on marque le coup avec une rétrospective, une projection d'un film documentaire sur le festival en lui-même et puis du théâtre, on le verra ensemble. Restez bien avec nous, ce sera en seconde partie d'émission. L'émission se termine bien puisqu'elle se terminera avec notre chroniqueuse Soazic qui nous donne comme chaque mercredi, une semaine sur deux, un autre écho de l'écho.
Je m'appelle Véronique Saudreau, je suis donc au refuge depuis le mois de juillet 2023. Je suis arrivée au refuge parce que de retour donc du sud, le retour en Mayenne était un petit peu compliqué au niveau professionnel. J'ai beaucoup travaillé moi en fait en secrétariat, comptabilité, commercial, beaucoup dans les bureaux. Et là j'avais envie de prendre l'air et j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré Laurence à un forum pour l'emploi. Et donc c'est de là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller travailler au refuge, parce que c'est quand même une belle opportunité. On n'a pas l'occasion de travailler avec des animaux sauvages, même dans d'autres régions. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au refuge.
Avant d'arriver au refuge de l'Arche, est-ce que vous aviez déjà été attirée par le fait de travailler avec des animaux, ou finalement c'est vraiment une découverte en arrivant ici?
C'est vraiment une découverte de travailler avec les animaux. Par contre, j'ai grandi, moi, dans un petit village mayennais où, effectivement, entouré de vaches, entouré d'animaux, entouré de fermes. Donc, et puis avec un attrait, en fait, pour les animaux en général. Mais je n'avais jamais eu l'occasion, moi-même, de travailler avec les animaux. Voilà, surtout avec des ours, avec des tigres, avec des panthères. Pour moi, c'est vraiment une super expérience.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle ici, des missions que vous pouvez être amené à faire?
Donc, les principales missions, c'est donc l'entretien des espaces de vie des animaux. Donc, intérieur, extérieur, on fait le nettoyage, on ratisse les extérieurs, on nettoie, en fait, on enlève les restes de nourriture, par exemple, et les déchets, la plupart des déchets. On participe également au nourrissage. Le nettoyage des enclos peut se faire seul, dans la majorité des cas, sauf pour les fauves et les gros animaux, les animaux dangereux. Par contre, pour les petits animaux, voilà, on est seul dans les enclos, on le fait seul. Le nourrissage se fait toujours avec une soigneuse. En tant qu'aide-soigneur, on travaille toujours avec une soigneuse. Moi, je participe aussi beaucoup aux tâches de la cuisine, en fait. Donc ramassage des denrées alimentaires qui sont données par les grandes surfaces, tri, parce qu'effectivement il faut trier les fruits, des légumes, chaque sorte de légumes. On a des animaux qui ne mangent pas tous les légumes, pour lesquels certains sont toxiques, donc il faut faire un tri. Et puis ensuite la préparation des rations. Les rations, elles sont déterminées par la vétérinaire, en fait, et en accord avec les soigneuses, parce qu'effectivement, on constate quand on fait le nettoyage que certains animaux n'aiment pas tel ou tel type d'aliment, donc ça sert à rien de leur mettre dans les rations. Et donc, on prépare quotidiennement les rations pour l'ensemble du parc.
Quand on est extérieur au refuge, on n'imagine pas ce que ça représente en termes de quantité, toute cette nourriture pour les animaux du refuge. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée ?
Ben, en termes de quantité, par exemple, j'ai calculé que pour une semaine entière au niveau des fauves, il nous fallait environ 130 kilos de poulet pour l'ensemble du secteur fauve, en fait.
Quand on voit le grand nombre d'animaux et puis la diversité des espèces présentes au refuge, j'imagine que ce tri des aliments doit prendre énormément de temps.
Oui. Ouais, oui, le tri représente une part importante parce qu'on trie par catégorie d'aliments. Donc les légumes, enfin voilà, les carottes avec les carottes, les oignons avec les oignons. On sort par exemple les citrons qu'aucun animal ne va manger, par exemple. L'ail non plus, en fait, on ne donne à aucun animal. Et ensuite, oui, il faut aussi trier les aliments qui sont trop abîmés, en fait, pour être donnés, qui pourront pas, enfin, qui sont trop abîmés ou qui ne vont pas se conserver dans le temps, en fait.
Est-ce qu'il y a un animal, peut-être, par exemple, qui aurait des besoins particulièrement exigeants ?
Oui, on en parlait justement avec la responsable de la cuisine, effectivement. Les animaux les plus exigeants, ce sont les ours, parce qu'on a deux ours, donc on les excuse du fait de leur âge, mais qui sont très difficiles. On essaye de leur donner les aliments qu'ils préfèrent, puisque forcément, on ne va pas leur donner des aliments qu'ils ne vont pas manger. Là, à la période, en fait, on est moins impacté parce qu'ils vont commencer à dormir. Donc les quantités se réduisent. Mais par exemple, pour Bonnie, donc l'ours mâle, on est à 40 kg de fruits et légumes par jour pour la période estivale. Donc Martha, un tout petit peu moins, mais voilà, il faut savoir que on peut pas lui donner n'importe quel aliment parce qu'il a des goûts bien précis.
On a pu voir effectivement que les différentes personnes tournent sur les différentes missions. En même temps, vous êtes combien de personnes à travailler en cuisine chaque jour ?
En fonction des présents et des plannings de chacun, on peut être amené, oui, voilà. L'idéal, c'est 3-4 personnes tous les jours au niveau de la cuisine, parce qu'après que chacun ait eu son repas, il faut faire la vaisselle. Donc autant de gamelles préparées, autant de gamelles à laver le soir.
Vous, Véronique, quelles sont les missions que vous préférez ? Quel est peut-être le moment de la journée que vous préférez au refuge de l'Arche ?
Le moment agréable, c'est quand on a un peu de soleil et que le matin, en fait, on rentre sur le parc. Donc l'ambiance est très calme et puis les animaux sont attentifs au soleil. Enfin, je pense au grand groupe des rhésus, les singes, en fait, ils se mettent en position face au soleil et à l'emplacement justement où le soleil va donner sur l'enclos. Donc c'est assez agréable à voir. Ouais.
Depuis que vous êtes arrivée ici, vous, Véronique, qu'est-ce que vous ressentez à travailler auprès des animaux ? Qu'est-ce que vous apporte cette expérience ?
C'est très agréable, en fait, de côtoyer les animaux, d'être au grand air, même si les intempéries peuvent parfois rendre le travail difficile et les journées un peu longues. Mais le fait d'être en contact avec ces animaux qui sont qui ont été habitués au contact de l'homme déjà, et c'est pas des animaux qui vous délaissent, en fait, c'est des animaux qui sont plutôt attentifs à vous ou qui sont un peu curieux pour certains, donc c'est très agréable. Et puis ce qui est agréable aussi, c'est le fait que les soigneuses font le même travail que nous, en fait. On n'a pas, moi j'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises avant où mon responsable me donnait les tâches à faire mais qu'il ne connaissait pas forcément ou qu'il ne faisait pas forcément. Et là, quand je ramasse du crottin de cheval, j'ai la soigneuse qui est avec moi qui fait la même tâche. Donc c'est vrai qu'il y a un regard différent sur le travail qu'on peut faire, même s'il est pénible, en fait. Au quotidien, on va dire, on est tous dans le même bateau et on fait tous la même chose, en fait.
Alors ce travail en équipe, les relations dans l'équipe ont l'air d'être aussi une force ici.
La plupart des gens qui arrivent là en contrat d'insertion sont des gens qui ont forcément des difficultés dans la vie, qui ont trébuché à un moment donné. Et donc en fait, on a tous une faiblesse, on en est conscient, puisque forcément, si on est là, c'est que voilà, on n'a pas une vie rêvée. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui se crée entre nous parce qu'on sait que voilà, on a tous une difficulté pour le moment. Voilà.
Aujourd'hui, au moment où on se parle, quels sont vos projets, Véronique, pour la suite ? Est-ce qu'il y a encore un lien justement avec les animaux ou est-ce que votre projet se construit autrement ?
Moi, clairement, mon rêve pour la suite, ce serait oui, voilà, de pouvoir continuer à travailler ici, enfin, à travailler ou à venir ici en tant que bénévole. J'espère que dans ma future vie professionnelle, en fait, je pourrai me prendre du temps voilà, pour revenir régulièrement ici. Parce que le parc est vraiment très agréable et je trouve que les équipes font un travail formidable, autant auprès des animaux qu'auprès de nous qui voilà, devons nous adapter à un travail qui est quand même difficile et contraignant. Voilà, ils sont eux obligés de s'adapter parce que les aides-soigneurs en fait on change régulièrement, voilà, il y a des nouvelles recrues régulièrement et donc en fait ils sont obligés voilà de s'adapter, d'adapter le rythme de travail, d'essayer de voilà de s'adapter aux personnalités, donc c'est pas toujours évident pour eux, mais voilà. Et ils s'adaptent aussi au niveau financier, donc c'est vrai que voilà, réussir à avoir un parc aussi beau et une ambiance aussi bonne, voilà, c'est vrai que c'est agréable.
Dans votre expérience ici, Véronique, est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant ou l'histoire d'un animal qui vous a particulièrement touchée ?
Je pense tout de suite à notre panthère mâle Philibert, car quand il est arrivé, Philibert était très très peureux en fait. Il était on va dire un peu terrorisé, un peu perdu. Il avait perdu tous ses repères. Et la première fois que je l'ai rencontré, Philibert, c'est au travers d'une vitre, puisque la soigneuse m'avait demandé en fait de nettoyer la vitre. Et Philibert derrière est arrivé en posant ses pattes sur la vitre et en me montrant grand ses canines. Ça a été notre première rencontre. C'est vrai qu'au début, il était très, très craintif, un peu agressif à notre arrivée. Et puis, au final, il s'adapte très bien. Et au contraire, Kira, la femelle, elle se comportait plutôt comme un chat puisqu'elle se roulait dans sa loge quand on était à proximité. Voilà, donc c'est, ouais. Mais maintenant, ils se sont bien adaptés, ouais.
De la même manière qu'un humain, chaque animal a sa personnalité, son tempérament.
Oui, 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 c'est vrai que c'est impressionnant en fait parce que on peut, enfin, quand on n'a pas l'habitude de travailler avec des animaux, notamment des animaux sauvages, on se rend pas compte que chaque animal a vraiment une personnalité, un caractère bien à lui et des préférences. Chez certains animaux, ils n'aiment pas qu'on soit brusque, d'autres n'aiment pas être rapprochés de trop près. Donc nous, en tant qu'aide-soigneurs, on ne les touche pas, mais c'est vrai que certains, dès qu'on rentre dans l'enclos, ils s'éloignent à l'autre bout et voilà, au fur et à mesure qu'on va faire le tour de l'enclos, en fait, ils nous fuient. Alors que d'autres, en fait, préfèrent regarder, venir voir ce qu'on fait de très près, en fait, et nous surveiller. Le message que je peux passer, moi, c'est n'hésitez pas à venir visiter le refuge. Là, pour la période hivernale, le refuge est ouvert le week-end uniquement, pas en semaine. Mais oui, n'hésitez pas à venir visiter les animaux, à venir voir un petit peu le travail qui est fait, parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Au milieu de la Mayenne, on est quand même à un bel endroit comme ça, très naturel. En fait, ça participe à améliorer la vie de certains animaux, voilà, qui vont passer une retraite heureuse ici. Et puis, ça permet à certains humains de reprendre un petit peu, de reprendre pied dans la vie. Ouais.
dans quelques instants, l'agité du local continue avec la petite annonce au bout du fil. Mais avant, on fait une pause avec MPL et son titre « Les oiseaux ».
Si tu cherches là, on dit que dans le chant des oiseaux. Si tu as peur d'eux,
tu sais que dans le chant des oiseaux.
Si tu cherches là,
Jean-Pierre ? C'est Jean-Pierre ? Allô ? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ?
Excuse-moi.
Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner ? Dis donc, oh !
Allô ? C'est Guy ? Bah...
La petite annonce aujourd'hui dans l'émission L'Agité du Local, c'est une voix que l'on connaît bien. Il s'agit de Jean-Michel Guinaudeau. Vous avez un événement à noter dans notre agenda.
Oui, le 11 décembre prochain, l'Association de défense des consommateurs UFC Que Choisir organise un ciné-débat au Vox à Mayenne à 14h30 sur le thème de la maîtrise des données personnelles. Nous présenterons le film qui s'appelle « Effacer l'historique ». C'est un film de Benoît Delépine avec des acteurs connus comme Blanche Gardin, Nelly Poulvord, Corinne Mazero, Denis Podaliès, Yolande Moreau, rien que du beau monde.
Et alors peut-être en quelques mots, quel est le synopsis du film ?
Alors le synopsis du film, c'est dans un lotissement, il y a trois voisins qui ont des problèmes avec leur fournisseur d'accès, qui n'arrivent pas à maîtriser les données, qui se sont fait pirater leurs données. Donc ça raconte un peu tous ces liens pour pouvoir maîtriser ces données. Et ensuite, après le film, évidemment, il y a le débat avec un certain nombre d'informations de la part de notre bénévole en charge de ces sujets.
Donc un rendez-vous qui va nous faire sourire, mais en même temps on va apprendre encore une fois. Merci Jean-Michel.
Et voilà, merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous connaissez sans doute les espaces de découverte et d'initiative en Mayenne. Plus précisément, aujourd'hui, je vous parle des ateliers d'échange qui ont lieu dans le pays de Cran avec Loïc Méjean, qui porte le Festival des 37. Justement, ce festival fête ce week-end ses 10 ans. Des rendez-vous vous sont donnés, ce qui sera aussi l'occasion de découvrir enfin le film documentaire réalisé par Jean-François Castel, Un tapis rouge dans le pré. On vous en parle. Écoutez. Cette année, le Festival des 37 de Renazé souffle ses 10 bougies et marque l'événement avec une projection exceptionnelle, Un tapis rouge dans le pré, un documentaire signé Jean-François Castel qui revient avec ce film sur la dernière édition et capture l'essence même de ce festival unique ancré dans son territoire. On écoute Loïc Méjean à l'origine du festival nous en parler.
Jean-François Castel, il a été parrain de la 4e édition et c'est en ça que je suis allé le voir pour qu'il soit le parrain de l'édition. Et puis, une semaine après, à peu près, il m'a donné son accord. Et puis, il m'a parlé d'une possibilité de faire un documentaire sur le sujet du festival. Ce documentaire sort, là, en ce moment. Il est venu, 18 mois, filmer pas à pas la création de ce festival. Il a vraiment passé beaucoup d'heures, beaucoup de temps, avec 3 caméras et une discrétion hors norme. Donc ça, c'est intéressant quand même, comme trace, c'est très vivant.
Justement, il y a un an tout juste, je rencontrais Jean-François, il lui tendait mon micro alors qu'il tournait ses dernières images.
Aujourd'hui, je suis documentariste. Moi, j'ai plutôt pour habitude de faire des sujets sociaux. Quand il m'a présenté le Festival des 37, je me suis dit, il y a une véritable histoire de documentaire, de film, une très belle histoire à raconter. Et je l'ai rappelé quelques jours après pour lui demander qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça serait envisageable de faire un documentaire. Il m'a dit d'accord, bingo, et du coup, ça c'était au mois de juin 2022. Au mois de septembre 2022, je posais mes caméras pour une première séance, bon, d'abord sans les caméras pour aller se rencontrer, rencontrer les participants aux ateliers. Et puis fin septembre, commencer à filmer des séances un peu à l'aveugle, puisque je ne connaissais pas du tout les personnages. Ils sont quand même assez nombreux et ils se sont dessinés au fil des mois du tournage. Ça a été très très fluide, on ne peut plus fluide, puisque c'est des personnes qui ont l'habitude de travailler autour du cinéma. Alors, ils ont l'habitude d'écrire des courts-métrages, ils ont l'habitude d'être acteurs sur des courts-métrages, et ils ont l'habitude aussi d'être très proches de la technique, voire de filer des coups de main, tenir une perche, faire une deuxième caméra. Donc, c'est vraiment un univers dans lequel ils étaient proches, alors d'un univers de fiction. Là, on est dans le cinéma du réel, c'est quand même autre chose. Mais il y a eu aucune appréhension.
Le film Un tapis rouge est dans le pré est sorti en avant-première il y a quelques mois au festival Premier Plan à Angers. C'était au cinéma Les 400 coups. Je m'y suis rendue et j'ai tendu mon micro aux spectateurs présents dans la salle pour recueillir leurs impressions.
Je suis Thierry Charrier, je suis réalisateur. Je fais des films et j'ai travaillé avec Loïc Méjean, notamment dans le cadre du Festival des 37 il y a quelques années. Et j'interviens aussi sur Mon Plaisir en ce moment dans le cadre d'un autre festival qui s'appelle Le Cinéma c'est mon plaisir. À la fois, je trouve ça très beau, et c'est très beau. Et en même temps, c'est vrai que ce qui souligne l'aspect quelquefois frictionnel, etc., n'est pas dans le film. Mais en même temps, dans le film, il y a la douceur. Et cette douceur-là qu'incarne un peu Loïc, elle est réelle, en fait. Parce que moi, je l'ai vécu. Et même si ça peut parfois être des fois compliqué, il y a quand même cet aspect-là qu'on voit dans le film. Il est bien là, quoi. C'est pas de la pommade, c'est réel. Le film traduit quand même ça, cet aspect. C'est pas simple. Mais il y a aussi un espace de paix, de liberté qui fait que c'est doux, enfin c'est tendre.
Oui, alors je suis une spectatrice assidue des films qui passent aux 400 coups et en particulier de ce festival que je trouve formidable. Et là, c'est une vraie découverte.
Je suis Sophie, je participe toujours au festival Estival d'Angers et ça me permet d'ouvrir effectivement des fenêtres que je ne soupçonnais pas. Et là, ce matin, sur ce festival de 27 de Mayenne, j'ai été étonnée et bouleversée un peu. Ça m'a surpris, effectivement, quand même, de me rendre compte qu'effectivement, quand on voit cette population en nombre, on se dit, mon Dieu, mais ils sont très nombreux et ils sont isolés, ils sont très nombreux. Et tout d'un coup, voilà, on réalise. on réalise.
Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est leur énergie, leur rire, leur même s'il doit y avoir des moments compliqués qui n'ont pas été montrés forcément, mais c'est ça, les voir réaliser des projets, les écrire, et ça m'a donné l'envie, l'idée d'aller à ce festival pour voir un petit peu la réalisation des projets. J'ai travaillé aussi les 5 dernières années au Festival d'Anjou, où j'ai pu aussi rencontrer M. Méjean, parce qu'il était porteur de projets. Et oui, je suis aussi très attentive aux tout le travail des travailleurs sociaux et de la culture face... Je n'ai pas envie de dire à ces populations parce que c'est les stigmatiser encore un peu. Non, ce sont des gens qui ont vraiment des choses à dire et qu'il faut mettre en valeur. Voilà. Et j'en parlerai autour de moi, effectivement.
Pour fêter les 10 ans du festival, rendez-vous ce vendredi 13 à 20h pour découvrir une création théâtrale jouée par les participants aux ateliers d'échange. Puis ce samedi 14 décembre, une rétrospective du festival vous est proposée avec la projection de 8 courts-métrages du festival qui sera ensuite suivie de la projection du film de Jean-François Castel, Un tapis rouge dans le pré, en présence du réalisateur au cinéma Le Vox à Renazé. On est de retour dans l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors Soisic, notre chroniqueuse du jour, m'a rejoint en studio. Bonjour Soisic, comment vous allez ?
Eh bien écoutez, très bien, et vous-même Margot ?
Eh bien très bien, alors aujourd'hui vous nous parlez des 40 milliards qui ont fait tomber le gouvernement qui sont une broutille.
Eh bien oui, tout à fait, parce que, évidemment, hein, ben, vous le savez tous, hein, notre gouvernement est tombé la semaine dernière en raison d'un budget de rigueur digne de l'austérité mitterrandienne de 1983 et des économies de ouf qu'il était demandé un peu partout. Alors, il fallait donc trouver 40 milliards. D'un côté, 40 milliards, c'est vraiment beaucoup. Mais d'un autre, ben c'est rien, parce que par exemple, par rapport aux 127 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Meta en 2023, eh bien on ne joue pas dans la même cour. Alors, donc finalement, vous voyez qu'il faut relativiser. Et donc, on comprend bien qu'il est bien compliqué de trouver tous ces sous. Et donc, plutôt que d'augmenter les impôts, le gouvernement a préféré tailler dans les dépenses, quitte à mettre à mal la culture, l'éducation de nos chères têtes blondes ou la lutte contre la catastrophe environnementale. Pourtant, Margot, il y avait une solution carrément très simple et surtout qui aurait fait consensus à droite comme à gauche dans un souci de justice sociale. Il fallait taxer les super riches. J'ai pas dit les riches, hein, j'ai dit les super riches. Alors je vois ici déjà les ronchonchons qui vont nous dire « Oui mais non, parce que les super riches avec leurs sous, ils investissent, ils créent des emplois et finalement ils sont bons pour le peuple ». C'est ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, dont je rappelle qu'elle n'a jamais été démontrée par quelque scientifique que ce soit. D'autres ronchonchons vont nous dire que si on taxe les riches, ils vont s'exiler à l'étranger et que du coup on aura tout perdu. Sauf que Piketty, et il n'est pas le seul, montre bien que depuis 1980 et l'instauration de l'ISF, seuls 3% de nos millionnaires se sont exilés. Pourquoi ? Bah parce que les futés, avec leur armée de conseillers fiscaux, ils ont bien rigolé à la mise en place de cet impôt. Ils se sont trouvés des niches fiscales auxquelles vous et moi n'avons pas accès. Ce qui fait qu'au lieu de payer les 45% légaux sur la tranche la plus élevée de leurs revenus, ils n'en payent que 26, voire moins. Ne nous faisons pas de bile pour les super riches en France, ils sont très bien traités. Bref, que ce soit une étude réalisée par l'ONG Tax Justice Network, de nombreux économistes et politiques internationaux, ou encore, tenez-vous bien, des milliardaires eux-mêmes, et oui, je ne plaisante pas, ce qui est quand même pas banal, eh bien tous appellent à la taxation des plus fortunés.
Mais ça rapporterait réellement beaucoup ?
Ah bah bien sûr ! En Europe, un impôt sur la fortune, je cite, « modéré et progressif », comme le suggèrent Gabriel Zucman et Emmanuel XVI, c'est des copains à Piketty tout ça, hein, centré sur les 0,5% les plus riches qui détiennent à eux seuls près de 20% de la richesse européenne, rapporterait à l'ensemble de l'Union européenne 213 milliards d'euros chaque année. Alors juste pour info, les 50% les moins riches se partagent, eux, 4% des richesses. Bon, cherchez l'erreur, c'était juste pour vous dire. Donc, ce que nous proposent ces économistes, politiques et milliardaires réunis, c'est de taxer, écoutez bien, 260 000 personnes en France sur 57 millions. Que les ronchonchons se rassurent, il est hors de question d'appliquer les 45% légaux et en vigueur. Non, on ne va pas quand même faire payer plus les riches que les pauvres. Non, 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 il s'agit uniquement de taxer les revenus supérieurs à 3,5 millions d'euros à 3%. Eh bien, rien que cela, ça rapporterait 42 milliards à la France. Donc, nickel pour les 40 milliards à trouver. Et vous voyez, quand je vous le disais, c'est carrément pas compliqué.
Mais est-ce que c'est vraiment possible ?
Mais bien sûr, parce que si nous en rêvons tous, l'OCDE peut le faire comme elle a réussi à le faire en mettant un taux d'imposition minimal sur les multinationales. Et mettre en place cette mesure au niveau européen n'aurait que des avantages. D'abord, elle montrerait aux citoyens que Bruxelles n'est pas qu'un nid d'ultralibéraux au service des nantis. Et il faut vous dire qu'à un moment où les inégalités explosent, hein, même en France, ça ferait du bien de voir que tout le monde s'y colle. Et puis bien sûr, ça permettrait de donner un coup d'arrêt au fantasme, d'un soi-disant exit fiscal. Alors la bonne nouvelle malgré tout dans cette proposition, c'est qu'elle rallie de plus en plus de partisans, y compris chez les économistes libéraux. Donc, vous voyez, les solutions pour renflouer les caisses de l'État existent et franchement, elles ne sont pas très compliquées à mettre en place et surtout, elles apparaissent juste socialement.
Alors, pourquoi les gouvernements freinent-ils des quatre fers ?
Alors là, Margot, j'avoue que je sèche. D'autant que si on avait mis en place cette imposition minimale et juste, je le rappelle, depuis de nombreuses années, nous n'aurions pas creusé chaque année le déficit budgétaire et donc nous n'aurions pas augmenté la dette publique. Alors, je lance un concours. Hein. Si un auditeur ou une auditrice a la réponse à votre question ultra pertinente, Margot, eh bien, merci de nous en faire part. On vous promet, on la diffusera sur les ondes.
Merci beaucoup, Soizic. Merci encore. L'agité du local s'arrête ici. Merci à Véronique du Refuge de l'Arche. Merci à vous, Soizic, pour votre chronique encore très pertinente aujourd'hui. Votre émission quotidienne rend l'antenne, mais c'est pour laisser place à d'autres très belles émissions. Et ce sera d'ailleurs le cas ce soir à 19h, puisque c'est l'émission Novorama qui arrive sur nos ondes. Chaque semaine, cette émission vous permet de découvrir une sélection de nouveaux sons indie rock, pop et électro. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, restez au chaud ou tenez-vous chaud. Faites ce que vous pouvez, faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.